Bonjour, bienvenue à notre émission Aime l'été, jour 2 de cette nouvelle saison, notre marathon estival qui vous convie du lundi au vendredi à un parcours bien animé autour d'activités de toutes sortes, des projets culturels, des découvertes urbaines, des escapades et des visites à ne pas manquer à travers le Québec, des lectures qui nous transportent dans toutes sortes d'univers, mais surtout de belles rencontres. Notre équipe de recherchistes est bien en selle pour vous dénicher de belles propositions tout au long de l'été. Et oui, ici Chantal Lavoie. Aujourd'hui, une activité bien montréalaise, Ciné Ruelle, nous offre des projections de films tout au long de l'été dans les ruelles de la ville. Une activité rassembleuse qui permet de créer des liens entre voisins. Aussi, Montréal complètement cirque nous revient avec une autre merveilleuse programmation cet été. Nous allons en parler en fin d'émission, mais dans les prochaines minutes, il sera question d'un salon intemporel, le Salon d'Emmanuel surplombant le quartier des spectacles qui ouvrira ses portes dans les prochains jours. Alors suivez-nous, au cours de la prochaine heure, voici votre émission Aime l'été. Et cela dit, si on a le temps, j'espère bien, je vais vous présenter nos jeunes collaboratrices, nos recherchistes stagiaires qui, en fait, que vous entendrez d'ailleurs à ce micro tout au long de l'été. Alors, j'ai bien hâte de discuter avec elles, de vous les faire connaître, deux jeunes filles dynamiques et allumées. Et sur ce, dans un tout petit instant, nos premiers invités, donc, on parle du Salon d'Emmanuel. Et j'accueille effectivement mes invités, donc Donald Lauture, entrepreneur, DJ montréalais avec près de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la vie nocturne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'initiateur du projet.
En effet.
Et oui, et ça prenait quelqu'un aussi pour gérer tout ça finalement.
Absolument.
Et oui, Maude Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale, donc, et bon, vous êtes... c'est ça, on dit curatrice de l'expérience, le Salon d'Emmanuel. D'abord, le Salon d'Emmanuel, on va régler le nom tout de suite. Alors, c'est inspiré d'un film français, mais il faut être quand même assez vieux pour savoir de quoi il s'agit.
Bon, je ne vais pas dévoiler mon âge, mais oui, c'est inspiration du film français.
Emmanuel, oui, qui a eu, en fait, une longue vie, si on peut dire, parce
et
que...
assez surprenant, il y a un remake... Il y a une nouvelle version qui est supposée de sortir dans
pour
la prochaine
vrai?
Année.
Oui. Ah, bon, ben intéressant, oui. Parce qu'il y a eu bien
interprété
des suites.
Interprété par Léa Seydoux.
Ah, d'accord. Ah, OK. C'était Sylvia Christel, je
exactement.
Pense, dans son...
Sylvia Christel,
ouais,
1974.
Et qui a fait toutes les séries, je pense, parce qu'il y en a eu plusieurs.
Elle
je
a fait
sûr.
Toutes les séries jusqu'aux années 81, et ensuite, ce sont des Américains qui se sont réappropriés la franchise.
Ah, d'accord.
Et ça a continué. Ça a perdu son lustre à partir des années 81, quand ce sont les Américains qui l'ont...
Ouais. Pour ouais. ceux qui, en fait, écoutaient la télé à une certaine époque... Il y avait l'émission Bleu Nuit.
À TQS.
Qui, bien sûr.
À minuit, les samedis soirs.
OK, alors vous l'écoutiez. Alors, c'était un film, disons-le, un peu érotique, hein, bon, de l'époque. C'était...
C'était un film iconique de
iconique.
L'époque. C'était un des premiers films qui a été présenté au cinéma qui avait des représentations sexuelles qui montraient des parties génitales de la femme. Au tout début, ça créait une polémique. Il y avait du monde qui piquetait puis tout ça devant les théâtres. Mais finalement, ça a eu un succès incroyable à travers le monde. Et c'est comme la première, comment je pourrais dire, émancipation sexuelle qui a été exposée au monde, l'équivalent de Sex and the City dans les années 90.
Oui, dans un certain sens, c'est vrai, mais autrement, mais c'est vrai. Alors bon, cela étant dit, on a réglé le nom. Maintenant, ben, c'est sûr, c'est probablement aussi parce qu'il y a une ambiance qu'il y avait dans ces films, il y avait quelque chose qu'on découvrait. Et là, ben, effectivement, on va découvrir... quelque chose de tout à fait unique à Montréal, le Salon d'Emmanuel. En fait, c'est un endroit où on se réunit, où on mange, où on boit, où on écoute de la bonne musique.
Exactement.
Je résume ça à peu près, un peu vite, là, mais c'est à peu près ça. Hein?
C'est le bon résumé. La comparaison, ce serait un rassemblement d'été dans une villa à Saint-Tropez, par exemple.
Ah, d'accord. Oui.
Donc, c'est très organique. Ce n'est pas une table avec 5 services, c'est des petits plats qui se partagent. Ceux qui veulent manger, mangent. Ceux qui veulent parler, discuter, boire, boivent. Et ceux qui veulent danser, dansent en fin de compte. Donc, c'est l'équivalent
d'un... Chacun est libre.
Exact. C'est l'équivalent d'un... Je vais excuser l'anglicisme, mais c'est un house party pour adultes, en fin de compte. Donc, d'accord. C'est très organique.
Vous avez beaucoup voyagé, j'imagine, en tant que DJ. Vous, Maud, vous êtes française. Est-ce que, finalement, ce projet-là, c'est-à-dire que vous avez déjà vu ce projet-là, ce genre de salon, d'endroit, est-ce que ça se fait en Europe un peu plus, quoi?
Alors, j'ai eu énormément de chance de voyager également. Je ne dirais pas que ça se fait plus. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment unique qu'on est en train de construire à Montréal. Il y a une inspiration française, ça c'est sûr. Une élégance qu'on retrouve vraiment dans les lieux, dans le personnel, puis dans notre clientèle aussi. Mais je dirais qu'on est vraiment sur quelque chose, un concept unique.
Intéressant, parce qu'effectivement, vous avez... vous parlez d'élégance, on parle de courtoisie, on parle de savoir-faire. C'est intéressant, là. Élaborer un petit peu là-dessus. Vous, Donald, vous pouvez m'en parler aussi de ce que vous vouliez faire au départ, là.
Au départ,
comment vous l'avez imaginé, cet endroit?
Bon.
Mis à part ce que vous nous avez dit, là, que chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Oui, mais ce projet-là, avec ce projet-là, je voulais embrasser mon âge. Donc, j'ai beaucoup de mes amis qui sont aussi dans la scène du nightlife, de l'hospitalité, où est-ce que on essaie de créer quelque chose pour une clientèle cible, dépendamment de qu'est-ce que la demande elle est en ce moment. Sauf que, bon, je ne vais pas me cacher, j'ai 44 ans. Mon cercle d'amis...
Oh, c'est si vieux.
Mais mon cercle d'amis, les clients que je côtoie et certains clients avec qui je travaille, ne se sentent plus interpellés par certains restaurants, bars, supper club, night club. Donc, j'ai dit, comment je pourrais créer quelque chose pour moi, qui est mon client cible, en fin de compte.
Oui.
Et d'où est venue cette idée d'un salon? J'ai toujours été une personne qui aime accueillir le monde, mais j'aime pas non plus être le centre d'attention. Donc, j'aime laisser le monde faire ce qu'ils veulent faire et ne pas imposer une certaine structure à la soirée. Et la deuxième chose, c'est, ayant voyagé beaucoup, surtout en France, il y a une petite touche européenne, française, à l'hospitalité, l'accueil, le service, que ce n'est pas dupliqué ailleurs dans le monde. J'ai travaillé à Dubaï, c'est des Français qui sont dans le service. J'ai travaillé à Hong Kong, ce sont des Français qui sont dans le service. Je suis à Vienne, ce sont des Français qui sont dans le service. Donc,
un raffinement.
Le raffinement.
Un doigté, une façon
exact.
De faire.
Et... dans le climat qu'on est en ce moment, je voulais aussi enlever la testostérone du projet et je pensais que ça serait la meilleure chose d'avoir une femme comme directrice générale. Déjà là, c'est une position qu'on ne voit pas très souvent dans la restauration. Donc, j'ai dit, j'aimerais donner les clés de ce beau véhicule à une femme et d'emblée, ça enlève la testostérone déjà et
je
la
comprends.
Petite touche de raffinement est déjà là.
Oui, un petit côté finalement plus féminin, mais aussi... Je veux dire, je pense quand même on laisse nos cellulaires à la porte ou enfin quelque chose du genre. C'est-à-dire qu'on ne favorise pas ce genre de... On ne veut pas avoir des gens qui ont leur cellulaire à la main constamment. On veut vraiment autre chose.
Exact.
Alors, c'est ça. Mais et vous vous êtes entouré, Maud, d'une belle... brochette, on dit ça comme ça, mais enfin, de collaborateurs aussi tout autant raffinés et qui sont dans le savoir-faire à tous les niveaux. Alors là, si on parle de... cocktail, si on parle de menu, si on parle de son. Alors, parlez-nous-en de vos collaborateurs.
Alors, on va commencer par, je dirais, le plus important, celui qui a fait le design, Zébulon Perron.
Oui, absolument.
Bien
c'est parce
connu.
Que c'est un lieu aussi visuellement intéressant. Là.
Oui, on est vraiment dans quelque chose de rétro, chic, élégant, qu'il a vraiment su créer et transformer de manière vraiment très concrète. Après, on a une grande chance aussi, on a le chef Nicolas Bramos, très renommé également.
Oui, qui a fait les restos très connus.
Exactement.
Tout comme Zébulon Perron, d'ailleurs, qui évidemment est connu dans le monde de la restauration pour ses décors, pour ses environnements. Alors, c'est ça, donc toute une expertise de ce côté-là.
Exactement. Puis qui fait une proposition vraiment très, très intéressante au niveau de la nourriture. Et enfin, notre directeur du bar, Dimitri Saint-Louis, qui a aussi un très beau parcours dans la scène montréalaise et également en France. Où il est resté quelques années, pour mieux revenir ici et proposer des cocktails vraiment à l'inspiration très, très Emmanuel. Donc ouais. Sur ça, on est vraiment très, très contents.
Et très chic et de bon goût.
Très chic, très élégant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut apporter dans cette scène montréalaise. Et puis, ce qui est quand même bien, c'est qu'on est quand même d'inspiration d'un film français. Et il faut savoir qu'en France, nous, la restauration, on ne le fait pas par défaut. C'est un vrai métier. Mmh. Et ça, c'est valable dans très, très peu de pays. Et c'est pour ça qu'on apporte une expertise en plus et un savoir-faire qu'on trouve nulle part ailleurs.
D'accord. Très intéressant. En fait, les lieux ont été conçus aussi pour favoriser les rencontres.
Exactement.
Mais enfin, les rencontres courtoises, on s'entend.
Oui.
Oui, alors c'est
ça. Et coquines.
Coquines aussi. Mais parlez-nous-en, effectivement, en fait, tout est dans... Vous parlez d'ergonomie, mais enfin, de façon de rapprocher les gens, d'avoir conçu le décor pour que les gens puissent se rencontrer, finalement.
Alors, dans le design avec Zébulon, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'on va mettre beaucoup d'ameublement.
OK.
Pour ne pas avoir d'espace vide. Deuxième chose que j'ai appris de Zébulon, c'est qu'il n'y a aucun cul-de-sac. Donc, chaque espace où est-ce que vous allez vous emmène à un autre endroit. Il y a certains endroits où est-ce que vous allez, et là, vous arrivez à un mur, vous devez retourner. Zébulon a créé des espaces où est-ce que il y a toujours une circulation fluide.
Ouais, un lieu de passage.
Troisièmement, ouais. On a vraiment joué sur la fine ligne de qu'est-ce qui est légal en ligne de construction. Donc, si on a besoin de 3 pieds en 2 tables, on a vraiment mis le 3 pieds, pas 4.
Okay.
Donc, le monde est fait pour se frotter. Donc, à chaque moment que vous vous retournez, c'est très cosy. On a aussi le système de plafond qu'on a installé. On a baissé le plafond pour vraiment créer l'effet que vous êtes dans quelque chose de très cosy parce que tout notre ameublement est beaucoup plus bas.
Ah, d'accord.
Donc, les tables sont basses, les chaises sont basses, les divans sont bas, sauf que si je mettais un plafond de 20 pieds, ça ne crée pas l'effet que vous êtes dans quelque chose de vraiment...
impersonnel.
Exactement, ouais. Chaleureux. Donc, on a baissé les plafonds. Dans les couleurs, on est dans les couleurs des tons orangés un peu partout. On a des fenêtres qui font 180 degrés de l'espace, donc on voulait embrasser le soleil. Donc, si vous venez à 6 heures et vous voyez le coucher du soleil, ben, la lumière vous suit. Donc, ce n'est pas dans du blanc, c'est dans du orangé. C'est un peu plus... agréable aux yeux aussi. Zébulon m'a aussi appris, on a fait beaucoup d'éclairage au niveau du plancher. Parce qu'une personne est beaucoup plus belle quand elle est éclairée d'en dessous que d'en haut.
Ah, c'est bien. C'est sûr que ça, c'est vendeur.
Ensuite,
c'est vendeur, ça.
On a rajouté du tapis partout dans le salon.
Pour le confort.
Pour le confort. D'accord. Et pour les femmes qui viennent en talons et c'est une longue journée de travail qui veulent les enlever, encore une fois, s'amuser. Et la dernière chose, c'est qu'on a mis des courbes partout. Il y a presque, je pourrais compter sur mes doigts le nombre d'angles droits dans l'espace. Tout a été courbé. La structure a été courbée, le bar est courbé, l'espace est courbé, les banquettes sont courbées, tout est courbé, aucune des tables sont carrées, tout est courbé. Pour la raison très simple, avec mes 25 ans d'expérience dans Nightlife, pour les femmes, quand ça devient le moment de se lever ou de vouloir danser, il y a un coin de table, ça tape dans la hanche.
Ah oui, je comprends. Donc, tout a été très, très pensé. Alors, évidemment, au niveau du décor, tout le reste suit, menu. Évidemment, j'imagine que c'est très soigné aussi. Menu, bien sûr, allégé parfois, ou enfin selon, selon les personnes. Alors, écoutez, là, c'est ouvert à l'année.
Ça va être ouvert à l'année.
Et puis ça, c'est au 5e étage, dans le quartier des spectacles. C'est l'édifice 222.
Exactement.
C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein?
Oui.
Alors, 3500 pieds carrés quand même. Vous avez une pergola aussi, 4 saisons.
4 saisons. C'est une des premières à Montréal. Elle est complètement vitrée. Avec un système de vitres guillotine, donc vous n'êtes pas dans un solarium, on peut faire descendre les vitres tout au niveau des yeux. Donc pendant l'été, s'il y a une belle brise, je fais descendre les vitres et vous pouvez...
C'est ça,
on a un système de rideaux aussi. Et les 4 saisons, chauffées, climatisées, donc pendant l'hiver, il vous neige sur la tête, sauf que vous êtes dans un oasis.
Et donc, ça fait en sorte qu'on a une vue plongeante sur le quartier des spectacles.
Exactement.
Oui. Étant au 5e étage.
Oui.
Alors, ouais, bon. Également le Mont-Royal.
C'est merveilleux, ça. Donc, effectivement, est-ce qu'on doit réserver?
Oui.
On doit réserver. On a 140 places, à peu près, c'est ça?
Assises.
Et donc, on peut accueillir à peu près 250 personnes, grosso modo.
À 250, ça devient très...
Ça devient très sensuel à 250.
Et voilà.
Oui, non, je comprends. Ben, écoutez, je suis sûre que vous allez avoir énormément de succès. C'est vraiment, comme vous le dites, unique. Alors, c'est vraiment une belle découverte à faire. Montréal, on est très choyés de vous avoir.
Merci.
Et que vous ayez finalement eu cette idée de nous offrir le Salon des manuels. Alors, vraiment, ce petit côté un peu vintage en même temps. Et puis, c'est ça, sensuel, à souhait, avec... c'est ça, pour bien manger, pour bien boire, pour faire de belles rencontres en toute simplicité. Et puis, voilà, avec une ergonomie sociale très particulière. Alors, beau décor. Merci beaucoup, Maude Picard. Merci, Donald Lauture.
Merci
ça a été
vous.
Un plaisir Merci de vous accueillir.
Merci à vous.
Au
Merci.
Plaisir.
Merci. Bye-bye.
Bon enfant et la chanson Cinéma.
Eh bien, voilà donc, les ruelles de Montréal vont s'animer encore cet été du 29 août au 11 septembre. Le Festival des arts de ruelles, en fait, c'est le Ciné-Ruelles, pardon, je m'excuse, là. On parlait d'un autre festival parce que finalement, les ruelles sont très occupées, effectivement, cet été. Il y a d'autres projets, mais Ciné-Ruelles. Alors, j'en parle, effectivement, avec mon invité, là. Présentement. Alors, écoutez, je vous souhaite, Clément Delacroix, un beau bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Oui, mais c'est ça. Mais là, j'ai fait une erreur parce que je voulais présenter Ciné-Ruelle, mais en fait, j'ai pas présenté les bonnes dates parce que là, je parlais du Festival des arts de Ruelle parce que j'avais ça devant mes yeux. Mais c'est ça. Donc, le Festival Ciné-Ruelle s'anime du 23 juin au 26 août. C'est les bonnes dates. Je m'en excuse. Voilà.
Il n'y a pas de souci. Puis bon. Le phare anime aussi les ruelles différemment. Bon. Donc, il n'y a pas de souci.
Ben non, c'est ça parce que je me suis beaucoup intéressée en fait. C'est parce que j'ai beaucoup de documentation sur les ruelles présentement devant les yeux. Parce qu'effectivement, je me suis beaucoup intéressée aux ruelles. Je trouve que les ruelles à Montréal sont fascinantes. Et puis effectivement, bon, on a parlé des ruelles vertes. Il y a plein comme on le dit, de projets qui sont dans l'air au sujet des ruelles. On veut les revitaliser. Ce sont des lieux de passage, mais évidemment qui sont devenus, qui ont pris d'autres formes aussi avec le temps. Et c'est une belle occasion aussi pour les gens de se connaître, en fait, tout le voisinage par nos ruelles. Alors, voilà. Donc, parlez-nous de Ciné-Ruelle. Hein. Ce n'est pas la première édition. Là. Vous en êtes quand même à votre combientième pour dire quelque chose qui ne se dit pas?
On est à la troisième édition. Effectivement, nous, on a pris vie au moment de la pandémie. Effectivement, que vous mettiez en avant, les ruelles sont quand même un lieu d'échange entre les voisins, avec les enfants, qui est très vivant. Et puis, donc pendant cette fameuse restriction, c'est là où a vu le jour un peu Ciné-Ruelle. Moi, je dis toujours, quand j'ai fondé, quand on a créé Ciné-Ruelle, il y a maintenant 3 éditions, on n'a rien inventé. On a juste structuré sous la forme d'un festival quelque chose qui existe et qui est typiquement montréalais depuis des années, qui est projeter des films dans les ruelles. Donc, on a voulu structurer et perdurer cette rencontre entre voisins autour de la culture, autour du cinéma. Et puis, on a voulu mettre aussi de l'avant, effectivement, ces ruelles qui sont souvent très belles. Il y a les ruelles vertes, il y a des ruelles actives, etc., qui sont un lieu de rencontre, de voisinage et parfois seulement de passage. Et puis, on a voulu mettre de l'avant des films qui sont accessibles à la famille, aux plus jeunes, pour pouvoir un peu on trouvait que c'était un peu les oubliés, les jeunes, les enfants dans tout ce qui est projection extérieure. Donc on a voulu mettre ça de l'avant directement dans le confort de leur ruelle, proche de chez eux, accessible.
C'est ça. Des films d'animation principalement.
Effectivement, des films d'animation principalement. Cette année, on est 100% francophone avec 2 beaux films québécois avec Katat et Félix, qui sont donc des films très faciles pour les enfants, mais qui sont aussi sympathiques pour les adultes. C'est-à-dire que parfois on voit qu'il y a des moins jeunes, je dirais entre 20 et 25 ans. C'est drôle parce qu'on s'est rendu compte que ces gens de 20-25 ans venaient voir des films qu'ils avaient vus quand ils étaient plus jeunes. Et maintenant, ils viennent souvent sous forme de petites dates. Donc en fait, on a plein de dates de 20-25 ans qui viennent voir. Donc c'est très sympa. Puis les parents qui amènent leurs enfants, ça leur rappelle des souvenirs parce que, comme je disais, c'est parfois quelque chose qu'ils ont connu plus jeune. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble.
Et oui. Façon aussi de se faire de nouveaux amis hein, pour les jeunes, finalement.
Effectivement. Et puis parfois, en fait, l'été, c'est la période où les plus jeunes ne vont pas à l'école, ils sont en relâche. C'est vrai que les ruelles prennent vraiment vie à ce moment-là. Puis c'est quand même une période, là, où on va avoir les déménagements qui arrivent. Donc parfois, il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux voisins.
Oui, c'est une façon de se souhaiter la bienvenue.
Exactement, de se rencontrer, de se voir, de se retrouver autour d'un film, et donc Ciné-Ruelle est là pour ça. En plus, on offre gratuitement le popcorn, c'est Bad Monkey Popcorn qui nous fournit ça gracieusement. Bad Monkey Popcorn qui est aussi une entreprise québécoise qui est basée à Montréal. Donc, qui offre le popcorn. Donc, c'est vraiment, on vient, c'est un événement à partir de votre chaise. Donc, on amène des petites chaises de camping. On s'assoit dans la ruelle. Le popcorn est offert. Le film est gratuit. Ça donne aussi cette accessibilité à la culture via le cinéma. gratuitement pour tous.
C'est ça. Donc, belle ambiance, bien sûr, en même temps. Vous devez compter sur des partenaires pour financer votre projet, finalement. Vous faites du sociofinancement aussi, je pense.
Oui, cette année, pour la première fois, en fait, on s'est développé. Les deux premières années, on était sur le plateau Mont-Royal, tout simplement parce que, en fait, la première ruelle qu'on a faite était à cet endroit-là. Cette année, on est parti dans Rosemont aussi. Donc, cette année, on a doublé. On va faire 40 projections.
Eh, oui.
Ouais, 40 projections, jamais au même endroit, une ruelle différente.
Donc, 40 ruelles, c'est ça, dans les arrondissements Plateau Mont-Royal et Rosemont, la petite patrie. Voilà.
Exactement, tout à fait. Donc, 40 projections les vendredis et les samedis au coucher du soleil. Donc, juin, juillet, 21h, puis mois d'août, 20h, le soleil se couche un petit peu plus tôt. Et puis, donc, on fait ça. Il y en a donc forcément deux simultanément. Il y en a toujours une le vendredi dans le plateau, une dans Rosemont. Et même chose pour le samedi. Et puis, bah, comme on s'est étendu, on a fait effectivement une campagne de sociofinancement pour pouvoir aller dans Rosemont. Mais nos partenaires, et notre partenaire qui nous aide depuis le début, c'est les caisses des jardins. En fait, c'est les caisses des jardins des arrondissements. Donc là, on a la caisse des jardins du plateau Mont-Royal, on a celle du cœur de l'île, on a celle de Rosemont-la-Petite-Patrie, et on a celle du centre-est qui nous aide très fortement à pouvoir proposer et garder gratuit ces projections de cinéma. Puis on a les deux arrondissements et l'ensemble des élus, que ce soit provincial ou fédéral, qui nous aident un peu aussi. Les arrondissements sont aussi d'une grande aide pour les deux arrondissements. Donc voilà nos partenaires ici. Puis on a pas mal de dons qui sont faits.
Les gens sont investis dans ce genre de projet. Les gens aiment
Exactement.
Ça, encouragent finalement. Oui.
Exactement. Souvent, ils viennent et puis, ceux qui doivent se le permettre, on se rend compte qu'après une séance, ils vont sur notre site Internet, ils vont à nous soutenir et puis ils nous font un don parce qu'ils ont passé une belle soirée avec leurs enfants et qu'ils ont envie que ça continue.
Alors, j'irai voir, moi, le petit Nicolas. J'irai voir. J'adore. oui. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Oui, j'adorais. Ouais. Je lisais le petit Nicolas quand j'étais jeune. Oui, c'est ça.
Alors, vous voyez, c'est tout, ça aussi.
Eh oui. Alors, tout est dans tout, comme on dit. Alors, c'est du 23 juin au 26 août, Ciné-Ruelle, à ne pas manquer dans votre arrondissement. Enfin, 40 ruelles qui s'animent et qui offre du cinéma aux jeunes et aux parents, au voisinage, enfin bref. Merci Clément Delacroix d'être venu nous en parler. Et bon été à vous.
Au revoir.
Merci, au revoir. Merci.
Vous écoutez Aime l'été.
Eh bien, c'est le temps de vous présenter mes toutes jeunes collaboratrices, qui seront avec nous tout au long de l'été. Alors, deux jeunes filles, deux jeunes femmes, devrais-je dire, qui ont étudié au cégep de Jonquière et qui sont des stagiaires ici même à Canal M. Et on est très heureuses de les avoir avec nous. Elles seront au micro aussi de l'émission Aime l'été. Alors, j'accueille tout de suite, Anaïs Sabourin. Bonjour, Anaïs.
Bonjour, Chantal.
Alors, Anaïs, c'est ça, tu vas nous parler, bien sûr, de toutes sortes de sujets durant l'été, mais c'est ça, ce sera intéressant de parler aussi de toi, là. On a le temps de se parler entre nous et puis enfin de vous faire... de vous faire connaître auprès du public. Et puis, j'accueille aussi, bien sûr, notre autre stagiaire, qui est Jennifer Aya Ando. Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, bien heureuse que vous soyez avec moi comme ça. Ça nous fait casser la glace, toutes les trois. Et puis, bon, alors, d'une part, Jennifer, toi, tu es originaire de la Côte d'Ivoire.
Oui.
Et tu es ici depuis quand même peu de temps. Tu es encore, c'est-à-dire tu es encore très jeune. Et tu es arrivée ici à l'âge de 13 ans.
Oui.
Alors évidemment, ça change une vie, ça.
Absolument, absolument.
Et oui, alors t'intégrer à l'âge de 13 ans, d'avoir quitté tes amis là-bas, d'arriver ici, qu'est-ce que ça t'a fait?
Ben déjà, quand je suis arrivée ici, j'ai eu comme le gros coup de froid parce que je suis arrivée en hiver.
Ah,
comme,
dis donc, quelle bonne idée d'arriver en hiver.
Quelle bonne idée à mon père de faire ça. Mais c'était vraiment à quitter d'un plus 28 ici, moins 30. J'étais comme, ouh, je vais rester chez moi. Et c'est pas mal ce que j'ai fait pendant ma première année. Je sortais pas pendant l'hiver à part aller à l'école puis revenir, mais sinon, j'étais tout le temps chez moi.
Ah ouais.
Pas d'activité d'hiver pour moi. Non, c'est ça. J'étais pas assez habituée à ça.
Puis les c'était vraiment le climat qui te dérangeait le plus, finalement.
Le plus, oui, mais aussi, j'étais dans une petite ville quand même. Ben, Chicoutimi, c'est quand même une petite communauté.
C'est ça, vous vous êtes intégré tout de suite en région, c'est ça, dans une ville qui n'était pas une grande ville comme Montréal.
Oui, comme tout le monde, ils se connaissaient déjà, donc c'était pas mal difficile à l'école de rentrer dans un groupe d'amis. Ces personnes-là se connaissent depuis tellement longtemps que c'est impossible de briser comme la coquille pour rentrer dedans. Donc, j'étais pas mal chez moi sans amis aussi.
D'accord. Donc, ça a pris un certain temps avant que tu puisses t'adapter. Et oui. Donc, tu as fait tout ton parcours, tu as fait par la suite ton parcours académique, bon, scolaire. Et après ça, bon, tu as eu l'idée finalement d'aller en communication.
Oui.
Et ça, c'est arrivé quand?
Ben, c'est arrivé quand j'ai su que les maths, c'était pas fait pour moi.
Ah, d'accord. Il y avait une bonne raison.
Il y avait une bonne raison. Déjà, c'était pas comme si j'étais nulle en maths. Genre, je me donnais à fond dedans, mais je me disais, au fur et à mesure que ça passe, c'est... ça devient difficile, puis j'aime plus ça. Donc, finalement, j'ai trouvé le programme en arts et technologie des médias au cégep de Jonquière, puis j'ai demandé une admission là-bas. Mon père était quand même contre cela, parce qu'il voulait que je devienne ingénieur plus tard, mais c'était pas dans ma vocation. Donc, finalement, puisque j'aimais beaucoup parler, j'ai fait, ben je vais demander une admission là-bas, puis ma mère m'a soutenue sur ce point-là. Donc, ça fait que mon père a accepté, puis j'y allais.
Mais c'est un peu normal, parce que je pense que c'est un peu... les gens qui émigrent souvent veulent le mieux pour leurs enfants. Oui. Et donc, c'est ça, on fait des projections, c'est-à-dire qu'on les voit, évidemment, dans des métiers plus sûrs, enfin, avec être sûr qu'on va bien gagner notre vie et tout. Alors, c'est normal. Toi, Anaïs, alors, toi, il faut dire que tu es... en fait, tu as un handicap de naissance et tu es en fauteuil roulant.
Oui.
Et tu as avec toi toujours un charmant compagnon, un chien Mira.
Exactement.
Qui t'accompagne dans tes déplacements, qui est absolument adorable. Alors, nous avons le plaisir aussi de l'accueillir en même temps que toi en studio. C'est merveilleux. Alors, toi, évidemment, ça a teinté aussi toute ta jeunesse.
Oui, beaucoup, beaucoup. Mais ça fait partie de ma vie depuis toujours, donc c'est sûr que ça a teinté toute ma vie.
Toute ta vie, bien sûr. Alors toi, tu es une fille qui, évidemment, qui est habituée de se débrouiller toute seule et puis c'est drôle parce que tout à l'heure, tu me préparais des choses et puis alors j'avais pas le réflexe de dire, je vais revenir chercher les documents. Non, tu es venue me porter les documents et tout. Alors tu es habituée de faire ça, donc on n'y pense même plus. Mais alors c'est ça. Donc tu vas nous parler évidemment de sujets de toutes sortes, mais évidemment, ça va teinter aussi en même temps les sujets que tu vas aborder tout au long de l'été. Bien sûr, nous parler de ta réalité, de ton vécu aussi, de tous les jours. C'est sûr qu'il y a plein de choses à partager et puis aussi à faire prendre conscience aux gens de ce que les gens vivent quand ils sont en fauteuil roulant.
Oui, bien, ça fait partie de ma vie. C'est des enjeux que je côtoie à tous les jours, à toutes les secondes. Au moment où je sors de chez moi, c'est des enjeux auxquels je fais face constamment. Donc, c'est sûr que... les partager, je trouve que ça fait œuvre utile aussi en même temps. Puis c'est super important pour moi, ça a toujours été super important.
C'est presque une mission parfois.
Oui, bien, un petit peu. Je veux pas trop, mais d'une certaine manière, je pense que ça vient avec.
Oui, c'est ça. Disons que ce n'est le fait d'être originaire de la Côte d'Ivoire, le fait d'être en fauteuil roulant, enfin, ce n'est pas, ça ne vous définit pas en tant que personne, bien sûr, mais ça fait partie de... Alors, c'est intéressant d'échanger. D'ailleurs, Jennifer a de splendides cheveux teintés de bleu. C'est magnifique. Et là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui change de tête souvent, mais moi, je resterais comme ça tout le temps. Mais là, toi, tu es habituée à changer.
Oui,
et puis ça, c'est un trait. Bon, souvent, les gens en Haïti, les Africaines, les Haïtiennes, souvent, aiment beaucoup arborer des coiffures différentes. Et puis, alors, c'est ça. On parlera, c'est l'été après tout. Hein. Alors, on parlera de pourquoi pas de coiffure, ça pourrait être un sujet intéressant. Oui, c'est quand même, il y a sûrement plein de choses à dire. Et toi, Anaïs, c'est sûr que toi, ça a teinté aussi toute ta jeunesse, à savoir, le fait que tu vis avec ce handicap et que tu sois en fauteuil roulant, est-ce que, par exemple, tes parents t'ont incité à aller vers d'autres amis que des gens qui étaient peut-être, qui partageaient la même réalité que toi?
J'ai jamais été avec des gens qui partageaient la même réalité que moi. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai côtoyé. J'ai toujours été à l'école régulière. Mes parents se sont battus toute ma vie pour que j'aille à l'école régulière.
Puis ça fait aussi que j'ai eu une éducation dite normale, normal, là, entre gros guillemets. Mais j'ai jamais été amie nécessairement avec quelqu'un qui a un handicap uniquement parce qu'elle a un handicap. Mes amis sont des personnes qui se déplacent. C'est drôle à dire, mais tous mes amis sont des sportifs, vont au gym. Donc, c'est vraiment comme au contraire de ce que je suis. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a entre ça, il y a le côté pratique aussi parce que moi, je peux pas me déplacer. Donc, j'ai l'impression qu'en ayant des gens qui peuvent m'aider à me déplacer, ça vient pallier aussi à mon handicap. T'sais, ces gens-là vont m'aider à me déplacer, vont me prendre dans leurs bras, vont me monter dans les escaliers. Donc, si c'était pas de ces gens-là qui m'accompagnent à tous les jours, je ferais pas autant d'activités, puis je serais pas
t'as tout à fait
aussi
raison.
Autonome. Ouais.
Oui, t'as tout à fait raison, c'est vrai. Il faut y penser à ça.
Oui.
Alors non, c'est ça, mais exactement, parce que bon, ça a comporté bien des défis, bon, de dire que de faire toutes les activités comme tout le monde,
ouais.
Et puis c'est ça, de faire une vie normale, comme,
ouais.
Comme tu dis. Alors ça va être très intéressant tout au long de la saison, de partager ça avec vous deux, vos différentes réalités, et puis le fait aussi que vous soyez jeunes, et puis comment vous voyez la vie, bon, il y a plein de sujets intéressants que l'on va aborder. Alors, ça commence la semaine prochaine. On va avoir vos premières chroniques dès la semaine prochaine. En tout cas, ça a été un plaisir. Puis, ben, écoutez, cette semaine, il n'est pas dit qu'on ne va pas se reparler. Alors, c'est parfait. Ben, merci à vous deux. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Et puis, bon, on a cassé la glace ensemble.
Merci à toi.
Merci. Bye, bye.
La pièce Solange, tirée d'un spectacle du Cirque Alphonse.
Ah, c'est très intéressant. Merci, Mathieu, oui, c'est ça, d'avoir pensé à ça. Alors, complètement excentré, complètement trépidant, complètement fascinant, complètement envoûtant, c'est Montréal complètement cirque qui nous revient. On en parle à l'instant avec le directeur général et responsable de la programmation, Stéphane Lavoie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, comment allez-vous? Alors, prêt pour cet autre événement, évidemment complètement cirque, qui nous revient pour une 14e édition?
Oui, ben, vous savez, dans notre milieu, on n'est jamais prêt. On a toujours besoin d'une semaine de plus. Mais oui, on va être prêt. Les artistes commencent à arriver. Le montage est commencé. Je suis en ce moment au quartier général de la rue Saint-Denis,
okay.
où toute l'équipe s'affaire à transformer la rue Saint-Denis en une grande piste de cirque ouverte. Et préparation aussi d'Émilie Gamelin, qui est un grand spectacle aussi qu'on va faire pendant le festival.
Oui, parce que là, on retrouve différents lieux, bien sûr. Et donc, ça, c'est du 6 au 16 juillet. Bien sûr. Donc, alors, vous allez accueillir de nouveau cette année des compagnies de cirque de partout, autant de l'Australie, des États-Unis, de la France, du Mexique, de la République tchèque. Évidemment, des compagnies de chez nous aussi, hein, bien entendu, puisque Montréal, c'est vraiment un centre névralgique, enfin, un centre vraiment important. Là. Ça confirme vraiment qu'on est la capitale du cirque à toute fin pratique.
Oui, bien, Montréal est l'une des grandes villes de cirque dans le monde par son école nationale de cirque, qui est une des plus importantes au monde, mm-hmm. le Cirque du Soleil, bien sûr, mais les compagnies qu'on a, ce qui fait que ça attire des talents. C'est ici qu'on a les bons profs, des bons coachs, des bonnes compagnies, des créateurs. Alors, le talent attire le talent, la créativité, le succès attire le talent. Donc, c'est pour ça que Montréal est l'une des capitales des arts du cirque. Mais pendant juillet, pendant Montréal complètement cirque, c'est vrai que c'est sur la planète, le cirque, c'est ici que ça se passe. C'est vraiment, on attire on a aussi un marché là, pendant le festival, donc c'est près de 350 professionnels des arts du cirque qui vont venir, les compagnies étrangères qui vont venir. Il y a tout un écosystème, mais vraiment qui fait que quand on fait du cirque, ben le rêve, c'est d'aller à la Tohue, d'aller à Montréal complètement cirque. Ça, c'est vraiment important. Et ces deux semaines-là sont tous les projecteurs dans le milieu cirque, là, c'est ici.
C'est oui. ça. Parce que même pour oui. les artisans, pour les gens du cirque eux-mêmes de se rencontrer, j'imagine que c'est très oui. important.
Mais vous savez, les arts du cirque, c'est apatride. Un artiste de cirque, il est dans la famille cirque partout sur la planète. C'est comme ça vraiment depuis toujours. C'est un peu l'époque saltimbanque, et c'est encore comme ça. Des artistes de cirque travaillent partout dans le monde. Il y a des communautés culturelles sont dans tous les spectacles. Et Montréal est formidable pour ça. Je voyage beaucoup là pour aller voir les spectacles. Puis quand on dit Montréal, là, ben les yeux brillent. C'est wow. Venez aller jouer à Montréal, d'aller rencontrer le public de Montréal aussi, c'est un défi. C'est sûr que le public ici est un public professionnel, un public spécialisé en art du cirque. Il y en a vu d'autres.
Ouais.
Alors pour les artistes étrangers, venir à Montréal, c'est bien sûr rencontrer les amis, rencontrer des coachs, apprendre, se performer, tout ça. Mais c'est aussi rencontrer le public. Et ça, c'est un challenge et c'est ça que les artistes veulent voir. C'est venir jouer, performer à Montréal, rencontrer ce public-là. Puis
c'est ça, donc un public succès, averti. Ouais. C'est sûr que, oui. bon, on s'entend, le Cirque du Soleil a complètement changé notre regard sur le cirque. Et puis ça a amené aussi une créativité incroyable parce qu'après ça est arrivé plein de compagnies de cirque, même chez nous. Là, vraiment,
ça a
littéralement explosé après, oui, c'est ça.
Oui, ben en fait, le cirque, c'est le vaisseau amiral. C'est vraiment grâce à lui que tout ça s'est développé. Tous les artistes, beaucoup de gens de théâtre, de danse, des chorégraphes, des chanteurs, des musiciens qui font que c'est le Cirque du Soleil aussi.
Mm-hmm.
Et ce que ça fait après quelques années, ben, c'est le retour. Les artistes ont envie d'avoir peut-être des choses à dire, d'avoir leur propre numéro ou leur propre spectacle. Et donc, le Cirque du Soleil va avoir 40 ans l'année prochaine. Alors, ça fait
oh.
on est vraiment...
Ça va être un bel anniversaire, ça.
Oui, oui, oh. c'est les 20 ans de la Tohue aussi. Alors, l'année prochaine, on va fêter pas mal. Mais on voit les résultats de ça depuis 20 ans, en fait, cette effervescence créative que le Cirque du Soleil a stimulée. Bien, ça donne envie de créer des spectacles. Le public a envie de voir autre chose, d'avoir des plus petites formes, d'autres façons de faire du cirque. Donc, c'est un peu ça l'idée de la Tohue et du Festival Montréal complètement ouais. cirque, c'est de montrer la diversité des arts du cirque.
Tout à fait.
Le Cirque du Soleil, c'est une chose, c'est exceptionnel, c'est vraiment incroyable.
Comme vous dites, c'était le vaisseau amiral, oui, à
oui.
l'époque.
Oui. Mais après, il y a mille façons de faire du cirque, de raconter une histoire, de vivre une émotion.
Mm-hmm.
Et c'est ça la diversité qu'on présente dans le spectacle de cirque. Au festival, on a 14 spectacles en salle.
Oui, c'est ça, parce qu'ils vont être présentés à la Tohue. Hein? C'est bien
entre
ça.
Autres, entre autres. Il y en a à la Tohue, il y en a à la Maison Théâtre, à l'Espace Saint-Denis, à l'Outremont, il y en a un peu partout. Parce que c'est intéressant d'aller présenter dans différents types de salles. Il y a des spectacles que, par exemple, à l'Outremont, on ne pourrait pas faire à la Tohu. Mm-hmm. Ou à l'espace Saint-Denis, qui est plus en mode cabaret pour adultes. Ce n'est pas quelque chose qu'on ferait à la Tohu. Alors là, ça nous permet d'aller de présenter plus de diversité encore dans les spectacles de cirque. Et puis, si vous les voyez tous, là, ben, à aucun moment vous allez dire « Ah, ça, je l'ai vu la semaine passée. »
C'est ça. C'est vraiment… Alors, parlez-nous-en de vos compagnies là, qui seront présentes. C'est sûr qu'il y en a déjà pas mal là, en salle. Et puis, plus tout ce qu'on va voir aussi dans la rue, exactement.
Oui, c'est ça. Oui, le festival est à deux vitesses, on veut. Il y a en salle, en spectacle avec une billetterie. Et puis, donc, des spectacles plus aboutis ou plus d'une heure et plus, tout ça. Alors qu'à l'extérieur, on est plus près de l'animation ou des spectacles vraiment très, très forts en acrobatie, mais de 30 minutes. Mmh. Alors, on en a, si on y va rapidement là, dans les gratuits, c'est vraiment la rue Saint-Denis puis la place Émile-Gamelin, c'est le cœur de tout ça.
D'accord.
Mais on a maintenant le géant.
Et voilà, place Ville-Marie. Vous allez, l'an passé, vous aviez partagé ça en trois lieux, hein, je pense, le géant.
C'est ça,
maintenant,
oui,
là,
oui.
Vous avez regroupé en un seul lieu.
Oui, c'est un lieu, mais il est là tout le mois de juillet.
C'est ça, donc, vous avez misé sur plus de représentations.
Oui, c'est ça, la durée. Je ne vous cache pas que c'est un produit d'appel pour le tourisme. Mm-hmm. C'est ici de contribuer à relancer le centre-ville. Et donc, être là tout pendant un mois, là, ça va être très payant, mais c'est beaucoup plus agréable pour les artistes aussi de jouer pendant un mois. Et donc, ça, c'est le Cirque Éloise qui fait le spectacle à l'intérieur de ça. Et puis, sur Émile Gamelin, c'est la compagnie Agile Talon, une nouvelle compagnie qu'on soutient beaucoup. Et on a vu des enchaînements hier. C'est un spectacle acrobatique très, très, très fort. Très content de ce qui s'en vient sur Émile Gamelin. Donc ça, c'est gratuit, mais c'est des spectacles de 30 minutes, deux fois par soir. Et après, dans les salles, bien, on a des spectacles, bien sûr, à la Tohu, le spectacle d'ouverture, c'est The Pulse, qui est un spectacle événement. C'est vraiment
spectacle
extraordinaire. C'est 26 acrobates d'Australie avec 34 choristes, jeunes filles de la Catalogne, avec une musique. Et il n'y a pas de décor. Là, on est tout le monde ensemble pendant 1h10 dans une fusion entre la musique, le corps et le chant. C'est absolument fabuleux. C'est événementiel. Là. C'est rare qu'on peut faire ça. On le fait grâce au soutien des gouvernements d'Australie et de la Catalogne parce que c'est vraiment phénoménal comme spectacle.
D'accord.
Oui, complètement.
Ouais.
Donc ça, c'est un spectacle d'ouverture. Après, on a pour la première fois une compagnie de Prague, la Runners, la compagnie Aputica, qui est très connue en Europe. C'est la première fois qu'ils viennent au Canada. On a réussi à trouver un moment. Et ça, c'est très physique.
Oui, parce que ça va être... ils vont quand même réaliser un exploit assez audacieux. De présenter une pièce sur tapis roulant géant.
Oui, ce qui nous raconte des histoires sur leur vie. C'est des petits moments de leur vie, mais sur le tapis roulant. C'est du cardio. Très fort. Vraiment, mais c'est magique. Avec juste du mouvement, cette espèce de tapis qui tourne sans fin, de nous raconter avec l'acrobatie des objets et quelques paroles, de nous raconter des moments de vie, c'est assez magique. C'est très, très fort. Comme proposition, là, ça, c'est assez remarquable. Mm-hmm. Puis on a aussi Sanctuaire qui présente
Hémisphère.
Ce sont des très, très bons acrobates québécois qui ont créé leur spectacle, leur compagnie, qu'on soutient. C'est un spectacle qui va partir en tournée après au Québec et en Europe. Et c'est absolument poétique et magique.
Avec orchestre, hein? Ouais.
C'est l'orchestre live, c'est avec de l'acrobatie de très haut niveau. Ce sont des gagnants de médailles d'or là, de festival. C'est très, très fort aussi. Mais d'une poésie, d'une clarté, il y a quelque chose de très hypnotisant, très zen, très reposant. En même temps, ils sont fabuleux. Alors, c'est vraiment un beau moment.
Ouais. Sur notre rapport au temps, enfin, ça, c'est un peu la thématique. Ouais.
Oui, tout à fait, oui.
Okay.
Puis sinon, ben, pour avoir du plaisir, mais vraiment du plaisir, là, il y a le Barbu,
Jacques
Alphonse.
Qui sont de retour, oui.
Ils sont de retour à l'espace Saint-Denis. Orchestre live, des musiques des numéros complètement décalés, c'est absurde. Ils sont bons, ils sont drôles, ils rient d'eux-mêmes, c'est que du plaisir, vraiment, avoir du plaisir avec eux. C'est 13 ans et plus, mm-hmm. Mais après, à 9h30, il y a Dirty Laundry, de Breeds Factory, d'Australie aussi.
Okay.
Ça, c'est une troupe de cirque drague.
Oui, c'est ça, parce qu'on intègre toutes sortes de choses là maintenant dans le cirque.
Oui, oui. Oui, les dragues aussi font un peu nerveux.
Oui, oui.
Mais ça, c'est vraiment une... Ça, c'est 18 ans et plus.
Ouais.
Pour avoir du plaisir entre adultes.
Parce qu'il y a des scènes de nudité, dit-on.
Ouais, des petits trucs, des petits, rien d'offensant. Mais c'est vraiment drôle. C'est pas du tout... Il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de... C'est pas choquant pour le public, il n'y a pas de danger. Tout ça, c'est vraiment la liberté, le plaisir d'être soi-même. Et on a ajouté Barbada, qui vient donner ce côté francophone et d'animer, de co-animer avec Savannah, qui est la drague de ce spectacle.
De ce spectacle.
Et donc, imaginez deux dragues ensemble qui animent, déjà, c'est rare.
Ça devrait être festif, en fait, oui.
Mais c'est vraiment ça, il faut venir avec des amis, puis à faire la fête après avec eux. C'est vraiment un beau moment, oui.
Oui, alors, il y en a bien d'autres, là, finalement.
Oui.
Il y a aussi une compagnie du Mexique qui nous présente Julieta.
Oui, ben c'est une clown, c'est un spectacle solo. Gabriela est une clown mexicaine avec beaucoup de métiers, et ça, c'est son dernier spectacle qui est un hommage à sa grand-mère. C'est pas un spectacle pour enfants, là. C'est vraiment un spectacle, c'est le clown pour adultes, le modèle un peu plus européen ou qu'on connaît moins ici, cette forme d'art-là. Mais c'est un clown qui s'adresse au grand public sans parole, et c'est extrêmement touchant. C'est son personnage, le clown, est capable de nous faire vivre des émotions dans une zone où on peut pas aller normalement parce que des conventions et tout ça, mais le clown nous amène dans cette émotion de poésie, et elle est de très, très grand talent. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est bien, qui a été créé. Donc, c'est une coproduction qu'on fait aussi avec l'Allemagne, et elle a joué très souvent au Festival d'Avignon, elle est partout, donc
c'est une proposition tout à fait différente. Et puis, vous parliez des jeunes, hein? Il y a quand même des spectacles aussi, hein, offerts pour les jeunes, je pense. Est-ce que, je pense à la troupe La Croustade.
Bien, La Croustade, oui, en fait, La Croustade, c'est vraiment pour tout le monde.
Ça, c'est pour tout le monde.
Oui, c'est pour tout le monde. Les enfants vont se retrouver. En fait, vous savez, les adultes, des fois, on n'est pas toujours très vieux. On reste un peu... l'enfant, oui. En nous, il n'est jamais très loin. Et c'est ça, c'est deux artistes absolument adorables sur scène. Ce sont des adultes, mais est-ce qu'ils sont encore des enfants? Est-ce que c'est pas justement le plaisir? On s'empêche probablement trop souvent d'être nous-mêmes, de rester enfants. Donc, les enfants vont avoir trouvé ça très drôle parce que c'est leur milieu et tout ça. Mais nous, comme adultes, ça fait du bien de voir que c'est vrai, on aurait aussi envie d'être assis à terre avec une petite voiture, puis on aurait aussi encore besoin d'être enfant. Et ils nous amènent dans leur monde et dans leur imaginaire qui est vraiment formidable. C'est un beau spectacle. C'est deux artistes de Montréal, vraiment très touchants. Et on a un globe des photos courtes.
Oui, faut pas oublier.
Ça, c'est pour enfants.
OK.
Ouais,
alors, donc, il y en a pour tout le monde, de toute façon. Alors,
oui.
Évidemment, on va sur votre site et vous allez avoir, on va avoir tous les détails, donc, et puis ne pas manquer le retour des géants, bien sûr. C'est un événement, ça, qui va se concentrer, comme on le disait, sur la place Ville-Marie. Et puis, vous avez commencé à monter les structures, là.
Oui, c'est fait, là. Oui, c'est fait. Les artistes arrivent demain. Sur Émilie Gamelin, la même chose. La structure est en train d'être montée. Puis, la rue Saint-Denis est en chantier en ce moment. Donc, ça va.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez bien intégré ces structures-là avec l'anneau, finalement, qu'on a installé aussi
sur
l'esplanade de la place Ville-Marie, alors qui donne une perspective intéressante aussi. Donc,
oui, c'est assez magique parce que derrière l'anneau, quand on regarde le géant, il y a l'anneau derrière, puis ensuite, il y a la rue McGill et après, le Mont-Royal et le ciel. Et le soir, à 6h, le spectacle est à 6h et après à 9h. À 6h, c'est le coucher de soleil qui se prépare quand même. Il reste encore une heure ou deux. On est dans cette lumière-là. Et le soir, à 9h, il n'y a plus de soleil. Donc là, c'est les éclairages.
C'est ça.
Puis il y a tous les buildings qui sont là autour. Tout ça est intégré. Alors, c'est un moment assez magique aussi avec cet anneau-là qui est symbolique. Ouais.
C'est ça. Et en fait, avec le Cirque Éloise, cette année, l'an passé, c'était les 7 doigts de la main. Et puis, c'est ça, là, cette année, c'est le Cirque Éloise qui sera là avec dans une mise en scène de Benoît Landry, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et qui a fait, entre autres, vous savez, l'événement Serge Fiori Seul Ensemble, il a fait bien des choses, oui.
Oui, Benoît a beaucoup d'expérience en événements grandioses avec du cirque. Et là, c'est un peu un ode à la joie, en fait, mais c'est ce défi des artistes. Il y en a une douzaine qui vont arriver devant le géant. Ils vont dire, comment on fait pour aller en haut? T'sais, on veut toujours aller plus haut, on veut toujours aller en haut de la montagne, on veut toujours monter. Alors, ils vont essayer de monter géant. Et il y aura toutes sortes de difficultés, évidemment. Il y a des trampolines, des tapis, tout ça. Mais ça va être difficile, mais ils vont réussir. Et à la fin, ça va vraiment être l'ode à la joie et d'emmener tout le monde. C'est environ 2500, 3000 personnes deux fois par soir. Là,
et quand ça, même, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est très cool. Coûteux aussi, c'est quand même... une entreprise qui était très coûteuse. Alors, il faut rentabiliser, bien sûr. Oui. Alors, ça va être unique et peut-être qu'on l'aura chaque année, bien sûr. Alors, complètement extravagant, complètement émouvant, complètement attachant et complètement ludique, c'est Montréal complètement en cirque qui se poursuit et puis qui pourrait se poursuivre un petit peu plus pour certains spectacles jusqu'au 30 juillet aussi. Alors, à surveiller tout ça. Je vous remercie infiniment d'être venu nous en parler et je vous souhaite vraiment une belle édition cette année. On va se croiser les doigts pour que la qualité de l'air à Montréal revienne à la normale, oui. Hein, c'est sûr.
Oui, puis que le public vienne voir les artistes, vienne voir ce spectacle, c'est formidable.
Ben merci infiniment, au revoir et bonne journée à vous. Alors voilà, c'est tout pour Aime l'été, bien sûr, cette autre édition. On se retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h, ici Chantal Lavoie. Passez une excellente journée. Au revoir.